grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dawani
wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Il est 18h23, c'est l'heure du grand dialogue. Nous sommes avec Mariko, Modibo Mariko. Modibo, bonsoir.
Bonsoir, Falmatadao.
Modibo, tu as écouté, tu as entendu tous les correspondants de ces 24 radios partenaires que nous avons. Et quel est le constat de ton côté? Comment tu as vu ce deuxième tour des législatives?
Bon, là, on ne se démarque pas beaucoup trop du premier tour. Le constat est toujours le même. Les élections, les taux de participation par rapport aux élections, hein? Faible, même s'il faut relativiser par rapport aux régions, c'est le constat général qu'il y a. Et par rapport à ce constat, je vais tout de suite avec mes invités d'un moment à l'autre, on va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui fait ça et tirer les enseignements qu'il faut.
D'accord. Moribo, bon débat à toi.
Merci bien, tout à l'heure.
Vous écoutez le Grand Dialogue. Si vous souhaitez donner votre avis sur l'émission, poser des questions sur les thèmes abordés, réagir aux interventions de nos invités, vous pouvez nous contacter en nous écrivant à notre adresse électronique contact@studiotamani.org ou nous appeler au 75 99 74 53. Le Grand Dialogue, votre avis nous intéresse.
C'est parti. Ok. Le Grand Dialogue, élection spéciale législative 2013, au micro Mourou Mariko, dimanche 15 décembre 2013, deuxième tour des législatives. Près de 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire 127 députés et compléter du coup le nombre des 147 députés qui comptent l'hémicycle. Au moment où nous commençons ce débat, les bureaux de vote sont en train de fermer. Bientôt, le dépouillement et la centralisation des résultats vont commencer. Avant d'être en possession de certains résultats, les grands dialogues se proposent déjà de faire le point du déroulement des opérations de vote et en tirer les enseignements. Pour cet exercice, nous avons invité Maman Amel Sissé, qui, on espère, est en cours de route, va nous rejoindre. Il est expert du réseau APEM, réseau d'ONG d'appui au processus électoral. Et on a par téléphone, depuis Ségou, Moustapha Maïga, directeur de publication du journal Les Ségouviens, et aussi par téléphone, Amadou Garan-Kouyaté, chargé de cours à l'Université de Bamako. Merci, messieurs, de répondre à notre invitation.
Vous écoutez le Grand Dialogue. Si vous souhaitez donner votre avis sur l'émission, poser des questions sur les thèmes abordés, réagir aux interventions de nos invités, vous pouvez nous contacter en nous écrivant à notre adresse électronique contact@studiotamani.org. ou nous appeler au 75 99 74 53. Le Grand Dialogue, votre avis nous intéresse.
Là, on va commencer directement avec Moussa Maïga, puisque c'est le seul en ligne en ce moment. Les autres, on espère, vont nous rejoindre. Première question est à Moussa Maïga. Quel est le constat que vous avez fait au cours des opérations de vote? Quelles sont les informations que vos différents éléments ont remonté chez vous?
Merci, M. Mariko. Bonsoir à tous vos auditeurs, à toutes vos auditrices. Effectivement, ce matin, les opérations électorales pour ce second tour des législatives ont commencé depuis ce matin et viennent de s'achever. Mais disons que, M. Mariko, il faut noter le taux de participation. On l'imaginait d'ailleurs. Il faut noter le taux de participation qui est vraiment assez faible aujourd'hui. Par exemple, nous nous sommes amusés à aller dans deux communes différentes, la commune urbaine de Ségou et puis la commune rurale de Pelengana. Si on s'en tient par exemple à la commune rurale de Pelengana, dans le bureau numéro 3, à quelques 10 minutes de la fin de l'opération électorale, il y avait juste 121 électeurs donc qui ont voté sur un potentiel de 497, ce qui fait à peu près 24% de taux de participation, en dessous, n'est-ce pas, du taux de participation du cercle de Ségou au premier tour qui faisait à peu près 33,92%. Ensuite, si on prend le bureau numéro 30, toujours de la commune rurale de Pelengana, 119 électeurs ont pu voter à quelques 10 minutes de la fin de l'opération électorale, ce qui ramène toujours à ce fameux taux de 24%. Et puis, on part un peu plus loin dans le bureau numéro 30. Là, il y a 186 votants sur 497, soit un taux de 34%. Dans la commune urbaine de Strasbourg, nous prenons un quartier comme celui du troisième quartier qu'on appelle généralement Bougoufier, qui a quand même de tradition, c'est là où on vote assez ici à Ségou. Là, sur 486 électeurs dans un bureau de vote comme celui du numéro 7, 175 électeurs avaient déjà voté, soit un taux de participation de 36%. Donc on peut dire d'une manière ou d'une autre que le taux de participation est assez faible aujourd'hui.
Le taux de participation assez faible. Et là, on me fait savoir que Amadou Garan Kouyaté, chargé de cours à l'Université de Bamako, est en ligne. Monsieur Kouyaté, bonjour.
Oui, bonjour.
Taux de participation généralement faible, c'est pas en dehors de ces constats. Quels sont les autres constats que vous avez par rapport aux législatives?
Bon, d'abord, il faut expliquer cette faiblesse.
On va arriver aux faiblesses, mais déjà le constat général que vous faites, ce n'est pas des élections. On imagine que vous avez déjà effectué votre opération de vote, votre devoir de citoyen.
Oui, j'ai déjà voté.
Et quel est le constat que vous avez fait sur le terrain?
Bon, l'affluence est faible, c'est ça. Les gens ne se sont pas déplacés, en tout cas par rapport au premier tour, et par rapport à la présence.
Ok. On revient déjà, ça revient encore, on a beau rejeter ça, le taux de participation revient encore sur les débats. Le taux de participation faible, quelle explication on peut avoir par rapport à cela, M. Kouyaté?
Monsieur
Kouyaté, qui est chargé de cours à l'Université de Bamako.
On a un certain nombre de facteurs. Hein. D'abord, les gens se sont laissés aller dans l'illusion avec la présidentielle. Vous savez, beaucoup de Maliens étaient portés sur les problèmes du Nord, principalement sur ce qui se passe à Kidal. Et beaucoup de gens ont pensé que M. Keïta, une fois au pouvoir, prendrait les armes pour faire face au Mandela. Alors, mais ces gens constatent que le Mandela est toujours présent à Kidal. Et au lieu que la situation s'améliore, au contraire, elle s'aggrave. Ça, c'est une déception. Et qui peut expliquer effectivement le faible taux de participation par rapport à ces législatives. Alors, une autre explication, c'est que le changement auquel les gens s'attendaient, alors, finalement, n'est pas là, parce que vous voyez, par rapport aux candidats, on a l'impression que ce sont les mêmes gens qui sont là, qui étaient critiqués autant qu'Amadou Toumani Touré. Et les mêmes têtes sont là. Et donc les gens ne voient pas par rapport à ça.
Les non-renouvellements de la classe politique.
Voilà. Donc il y a cette déception qui peut aussi expliquer ce que nous constatons aujourd'hui. Alors, une autre explication, d'une manière générale, hein, les gens sont un peu déçus de politique. Et puis il y a le mal sénégalais qui se transporte chez nous.
Quel est ce mal-là?
Le mal, on dirait, voir son fils. Bon, en fait, les gens ne comprennent pas tellement. Alors là, on se tourne et bon, on fait attention. Et voilà, c'est ça.
Moussaf Maïga, vous avez suivi un peu les explications de Amadou Garan Kouyaté. Quelle autre explication vous avez par rapport au faible taux de participation? Moussaf Maïga, journaliste, directeur de publication du journal Ségouvien.
Oui, Mariko, je suis tout à fait d'accord avec M. Kouyaté. Ce mal, c'est un peu partout, et en Afrique, comme ici, bien entendu, au Mali ou encore à Ségou. Et c'est pourquoi il faut juste remonter au niveau des primaires, pour choisir les candidats. Depuis les primaires, je crois que le mal était là. Donc les candidats qui ont été choisis ont soit été imposés par les bureaux exécutifs de chacun des partis.
Donc ce ne sont pas des choix des populations.
Non, pas du tout. Et certains choix ont été opérés avec forcing au niveau des conférences régionales, si bien que depuis les primaires, les gens se sont un peu démarqués, en tout cas ici à Sibou, de cette joute électorale. Ensuite, autre fait, il y a vraiment, comme il l'a dit, le renouvellement de la classe politique. On a l'impression, M. Marico, de prendre les mêmes et de recommencer.
On recommence.
Donc, ça ne donne pas l'engouement. Imaginez, dans un centre comme l'école de Soninkoura, où c'est quand même un des plus grands centres d'élection ici à Sibou, où tout aux alentours, n'est-ce pas, c'est des jeunes de 18 ans, de 20 ans qui sont en train de jouer au football, qui ne savent même pas que le Mali joue, ou bien en tout cas le pays, ou bien la ville joue un enjeu aussi important que cette élection législative. Ça donne un peu tout ce que M. Kouyaté vient de dire. Il faut vraiment renouveler la classe politique. Et le mal, c'est un peu ça, M. Marico.
Le mal, c'est un peu ça. Vous écoutez l'émission débat du grand du Tamani, le Grand Dialogue, qui fait le point des opérations de vote au cours de ces législatives. Nous avons comme invité Amadou Garan Kouyaté, chargé de cours à l'Université de Bamako, et Moustapha Maïga, directeur de publication du journal Les Segoviens. Par rapport à la question l'image ternie des politiques, il y aura toujours tout de suite une réponse par rapport à cela, mais juste après avoir observé une toute petite pause. On revient autour de cette table pour répondre à la question. L'image, vous l'avez tous dit, que projettent les politiques en général ou les députés en particulier, n'est pas du tout enviable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer les blasons des hommes politiques au Mali? Moustapha Maïga, vous avez une réponse à cela? Quelques problèmes techniques qu'on a essayé tout de suite de corriger, et je reprends la question que vous avez posée, Moustapha Maïga. L'image des hommes politiques en général, ternie, et des députés et en particulier, l'image pas du tout enviable. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour redorer leur blason dans l'hémicycle, le prochain hémicycle?
Oui, M. Marico, je disais qu'il n'y a pas 40 000 solutions pour cela. Il faut renouveler la classe politique. Il faut prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je l'ai dit tantôt, on a toujours l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence. Si on prend même le cas de Sibou, où vous avez une liste qui est aujourd'hui en difficulté, qui est en ballottage, ce n'est pas parce que les populations ont préféré l'autre liste par rapport à cette liste qui est en ballottage et qui est un enjeu véritable. C'est beaucoup plus parce que les gens sont mécontents de leur gestion, les gens sont mécontents du fait qu'ils se sont éternisés. Donc, on préfère, comme à la sénégalaise, avec le cas de Macky Sall contre Abdoulaye Wade, on préfère plutôt ceux qui sont nouveaux, même s'ils ne représentent pas forcément le poids de ce goût, on les préfère à ceux qui sont en train de se tuer.
De toute façon, on va revenir juste à ce goût, qui est un cas spécial où, comme je l'ai dit, il y a quand même des hommes politiques qui jouent pratiquement leur carrière politique là-bas. Juste avant d'essayer de parler de l'Angers là-bas, Maman Amé Sissé est déjà sur mon plateau et qui
bon
était un peu en retard. Il est l'expert du réseau APEM, réseau d'ONG d'appui au processus électoral. Ils ont, comme on ne sait pas, annoncé près de 3300 observateurs sur le terrain. Leur constat, c'est important. Maman Amé Sissé, du réseau APEM, qu'est-ce qu'on vous a remonté comme résultat, vos observateurs?
Nos observateurs nous ont remonté plusieurs informations, notamment à l'ouverture des bureaux de vote, voir si le matériel des bureaux de vote était sur place. Et comme vous l'avez dit, on a déployé 3300 observateurs sur le terrain. Au premier tour, on avait déployé 3700. Mais cette fois-ci, il y a 40 circonscriptions sur 54. Donc, le nombre d'observateurs a légèrement diminué. Mais en tous les cas, c'est qu'à l'ouverture des bureaux de vote, on était globalement satisfait de la présence du matériel sur place. Donc 93% des bureaux de vote qui ont été couverts ont ouvert à l'heure, ce qui était une bonne chose. 99,6% des présidents des bureaux de vote étaient présents à l'heure. Et sur ces 99 bureaux, on a noté quand même de manière positive qu'il y avait 11% de femmes, environ 12% de femmes qui étaient des présidentes des bureaux de vote. Et nous avons remarqué aussi que parmi les assesseurs, il y a près de 47% de femmes parmi les assesseurs. C'était une bonne chose. D'une manière globale, l'élection, le vote s'est déroulé de manière normale, à part quelques petits dysfonctionnements que nous avons corrigés avec les préfets et les sous-préfets.
Quelques petits dysfonctionnements, comme quoi, par exemple, à APEM
Notamment, par exemple, à Diray, le préfet avait dit qu'il n'y avait pas de place pour recevoir les observateurs. Nous avons appelé le directeur général de l'intérieur, nous avons appelé le gouverneur et une heure après, tout était rentré en l'ordre.
Donc, votre objectif, c'est aussi de corriger les choses au fur et à mesure, en temps réel.
Oui, nous faisons de la surveillance, de l'observation citoyenne. C'est qu'au fur et à mesure qu'on constate des dysfonctionnements, pour la transparence et la crédibilité des élections, nous sommes en contact avec l'ensemble de l'administration électorale, la CENI, l'administration territoriale, et toutes les parties prenantes à cela, nous les appelons pour qu'ils puissent corriger au fur et à mesure. Et sur ces dysfonctionnements, l'essentiel a été corrigé sur les quelques petits cas de dysfonctionnement qu'il y a eu, et généralement, ils ont été corrigés.
Ça, c'est le côté organisationnel. Est-ce que vous, au niveau du réseau APEM, vous avez fait le même constat que l'affluence n'était pas aussi que ça?
L'affluence n'était pas, surtout à Bamako, l'affluence était très faible. C'était un peu le constat qui a été fait au premier tour. Ça ne s'est pas amélioré, au contraire, peut-être ça a même un peu baissé par rapport au premier tour. En tout cas, sur les premiers constats qu'on a eu jusqu'aux environs de 17h-18h, au moment où vous m'appeliez pour que je vienne, parce que nos observateurs sont en train de nous envoyer les derniers constats. Donc, d'une manière générale, l'affluence est faible. À part, on a suivi au niveau régional, à Gao et à Ansongo, il y a eu assez d'engouement, tout comme à Tombouctou. Mais bon, d'une manière générale, vraiment, l'affluence a été un peu faible. La mobilisation n'a pas été au rendez-vous comme on l'a souhaité.
La mobilisation n'a pas été au rendez-vous, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez fait le même constat? Parce que quand on a commencé le débat, Moustapha Maïga depuis Ségou a fait le même constat et Amadou Garankouyaté aussi, chargé de cours à l'Université de Bamako, a fait le même constat que ces élections ne mobilisent pas beaucoup. Et quelle explication vous avez par rapport à cela, vous du réseau APEM?
Bon, les explications, elles sont multiples. Tout comme au premier tour déjà des législatives, nous avons dit que les partis ne sont pas aussi bien mobilisés pendant la présidentielle que pendant ces législatives. Peut-être que les alliances que certains ont trouvées contre nature ont été de quelque chose pour ça, mais il faut reconnaître que les candidats eux-mêmes n'ont pas suffisamment mobilisé autour de leur personne ou de leur programme. Surtout qu'on n'a pas vu trop de programmes qui ont été proposées ou des thématiques qui ont été proposées aux citoyens pour qu'ils puissent être là. De l'autre côté aussi, on a vu, entre le premier et le second tour, vous avez vu le temps qu'on donne, il n'y a pas eu assez de temps pour la campagne. Et en plus, le temps qu'il y a eu pour la campagne, vous avez remarqué avec moi à Bamako, on est tous des citoyens de Bamako, qu'il n'y a pas eu grande foule en termes de campagne même pour mobiliser les gens pour aller vers ces élections-là. Donc je me dis, c'est tout cela mis bout à bout qui fait que, bon, on a le résultat de la participation qu'on a observé aujourd'hui, c'est que les candidats même n'ont pas suffisamment mobilisé les électeurs. Et jusqu'à présent, en dehors des efforts des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le processus électoral, en dehors de la société civile qui a essayé de faire des efforts de sensibilisation, notamment sur votre chaîne, mais sur votre radio, mais sur la radio nationale et d'autres radios, pour appeler les gens à voter. On n'a pas vu les candidats aller au-devant, c'est quand même des élections de proximité. On ne les a pas vus dans cette proximité électorale en train de mobiliser, de sensibiliser leurs électeurs, ou j'allais dire leurs militants, pour aller vers les urnes et leur donner un peu la victoire qu'ils souhaitaient. Donc c'est beaucoup plus de la faute, je crois, des candidats et des partis politiques que du reste de la société civile qui a fait ce qu'elle peut et de l'administration qui a mis tout en œuvre pour que l'organisation soit, en tout cas, tendre vers la perfection en vue d'avoir des élections assez paisibles. Sur ce plan, il y a un motif de satisfaction, mais sur le plan des candidats et des directions de campagne, on n'a pas vu grand-chose.
Les partis politiques n'auraient pas joué le jeu jusqu'au bout. Amadou Garan-Kouyaté, vous êtes chargé de cours, on l'a dit, à l'Université de Bamako. Votre regard par rapport à la question suivante, les modes de scrutin au Mali, est-ce que ce n'est pas aussi pour décourager un peu les gens, parce qu'on a l'impression que sans la dose de proportionnel, le vote de tout le monde n'est pas pris en compte. Votre regard d'universitaire?
Bon, vous avez plutôt... Avant, vous avez parlé de l'image...
L'image de l'homme qui projette l'homme politique.
Alors, je souhaiterais intervenir par rapport à ça.
Oui, rapidement.
Je crois que cette question est importante. Mais là, il faut dire que ce ne sont pas ces élus-là qui se mettent là. C'est-à-dire que c'est les gens qui votent pour eux et c'est les gens qui les mettent à cette place-là. Alors, il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité, sinon du comportement au niveau des électeurs. Moi, j'ai l'impression que les hommes sérieux dans ce pays n'ont aucune chance.
Pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche d'avoir de la chance?
Je ne sais pas. C'est vrai que les gens sont plutôt portés sur d'autres raisons, sur d'autres considérations, plutôt que
sur... Est-ce que vous voulez dire que c'est l'argent qui joue un peu par rapport à tout cela?
Justement, le problème est là. C'est-à-dire que c'est cette considération-là qui prend le dessus. Ceux qui peuvent faire l'affaire du pays, du peuple, des gens qui se montrent sérieux, qui se battent pour le pays, ces gens n'ont aucune chance. On a vu l'exemple à la présidentielle. Bon. Donc, finalement, je trouve que les meilleurs parmi nous s'écartent totalement de la politique et laissent la place au milieu, parce qu'effectivement, c'est ce qu'a voulu la société. Si nous constatons aujourd'hui qu'un Adama Sangaré au niveau de la commune 3,
les maires sortants du district de Bamako.
Comment?
Les maires sortants du district de Bamako.
Bien sûr.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Alors, donc si celui-là c'est ce que nous constatons, il pourrait être élu. Bon, finalement, à ce moment-là, il y a l'air de se poser des questions. Donc, il faut
qu'est-ce que vous avez contre cette candidature, par exemple?
Comment?
Qu'est-ce que vous avez contre cette candidature, par exemple? La candidature du maire du district de Bamako, qui veut être député.
Qu'est-ce que cette candidature?
Oui, oui. Comme vous avez pris ça en exemple, quoi. Peut-être que vous reprochez quelque chose à...
Tout le monde connaît M. Sangaré à Bamako ici. Il est parmi les hommes les plus critiqués de ce pays. Et normalement, la logique voudrait que des gens comme Adama Sangaré...
Oui, critiqué, parce que nous c'est par rapport aux citoyens lambda, à nos auditeurs. Critiqué par rapport à quoi? Quel grief social vous avez contre Adama, par exemple?
Mais vous avez déjà la preuve, il te parle et il vient de sortir de la prison. Alors, c'est déjà suffisant comme explication. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Koulou Koro? Voilà.
Ok. Donc, maintenant, si on revient à la question qu'on avait posée par rapport au mode de scrutin, est-ce que vous avez une réponse par rapport à cela? Est-ce que ça prend en compte...
Non, non, j'ai pas beaucoup de reproches à faire au mode de scrutin.
Ok. Sur ce, nous, juste avant de donner la parole, il y a Amin Cissé qui demande la parole pour avoir une explication par rapport au mode de scrutin. Amin Cissé,
le réseau APM. Je vais dire que sur le mode de scrutin, il faut relativiser, mais il y a une chose qui peut faire mal à des électeurs ou à des citoyens militants d'un candidat. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, le troisième, des fois, il n'y a que 0,2% entre le deuxième et le troisième. Voilà qu'il ne compte plus pour les législatives et tout. Alors que si on a des circonscriptions où vous avez 7 députés qui peuvent être choisis vu le nombre de la population, je crois que si on mettait une dose de proportionnel là-dedans, ça donnerait plus de représentativité que ce qui se passe aujourd'hui. C'est que vous voyez des gens qui, au deuxième tour, vous avez des partis ou des listes qui peuvent être au deuxième tour dans 20 circonscriptions et qui s'en sortent avec aucun député. Ce n'est pas normal par rapport à la représentativité. Et je me dis que ça aussi, nous avons fait une analyse pour dire qu'il faut revoir la loi électorale pour aller dans le sens d'une plus grande représentativité des Maliens et des électeurs à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait une dose de proportionnelle qui puisse permettre d'avoir une grande diversité et la représentativité d'un peu toutes les listes ou les partis qui comptent quand même. Parce que beaucoup de partis sont restés en rade alors qu'ils comptent et ils n'auront aucun député à cette assemblée. Ce serait très dur. Mais sur le reste, il faut relativiser aussi. C'est que c'est la première fois que, en tout cas au premier tour, on atteint un tel score de participation. On est presque à 40%. Ce n'est pas courant de 92 à maintenant, ce n'est pas courant pendant les législatives. Et généralement, il a été aussi constaté que pendant les législatives, le deuxième tour, il y a moins d'affluence que le premier tour. Parce que les consignes de vote ne sont pas forcément respectées. Et les gens qui ont perdu n'ont pas trop de courage à aller voter à des gens avec lesquels ils ne partagent pas beaucoup de choses malgré les consignes.
Nous vous rappelons que vous écoutez l'émission de débat du sujet Tamani, le Grand Dialogue, qui fait le point des opérations de vote au cours de ces législatives. Et nous avons comme invité Mahamane Amin Cissé, expert du réseau APM, par téléphone depuis Ségou, Moustapha Maïga, directeur de publication du journal Le Ségouvien, et aussi par téléphone Amadou Garankouyaté, chargé de cours à l'université de Bamako. Et par rapport au cas spécial de Ségou, qui présente quand même un enjeu majeur, on va juste avant qu'on revienne à ces cas-là, on observe juste, c'est pas une pause, ensuite on revient autour de cette table.
Toutes les voix du Mali. Anakan, Tamani Nakan, Adi Ale, Mali de Mounye, Adi Ale, Sigidaula, Adi Ale, Togodaula, Adi Ale, Adi Araunye, Adi Ale, Adi Araunye, Adi Ale, Adi Araunye.
On va directement à Ségou par rapport au cas spécial de Ségou. Et Moustapha Maïga, Montagatal, l'un des plus anciens, sinon le plus ancien député qui jouait là-bas, Dramane Damélé, candidat de l'ADEMA PSJ aux élections des grosses pointures qui jouaient pratiquement sur des listes à Ségou. Un enjeu quand même majeur par rapport à Ségou. Qu'est-ce qui fait que malgré tout cela, le taux de participation à Ségou est faible?
Oui, bon, pour le taux de participation qui est assez faible, je crois que les causes ont été citées tout au long de cette émission. Maintenant, comme vous l'avez dit, effectivement, Montagatal joue son va-tout dans cette élection. Dramane Damélé, lui aussi candidat à la présidentielle au mois de juillet 2013, joue son va-tout. Eh bien, c'est face, malheureusement, au parti du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le RPM.
Oui. Très rapidement, parce qu'on me signale qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Très rapidement. Oui.
Tout à fait. Je crois que il faut situer tout cela, tout ce qui arrive à la liste ADEMA, à la liste CINID, il faut situer ça vers le passé, parce que l'ADEMA, le CINID étaient des partis avec lesquels leurs députés passaient grâce à l'onction de la République, ses avantages. Et aujourd'hui, ils font face à la réalité à la réalité d'une élection. Si bien que il y a des jeunes loups qui arrivent dans le parti RPM, comme Yacouba Traoré de Markala ou Abdul Jalil Haïdara, qui est en train de poser des actes.
Très rapidement, par rapport au, c'est pas autre, faible taux de participation, tout le monde a été unanime. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité, par exemple, par rapport à ce taux de participation, les députés qui vont être élus ne vont pas se sentir lésés par rapport à la légitimité en 10 secondes?
Oui, bon, tout à fait, il y aura un problème de légitimité, mais ils ont quand même été élus. Sinon, pour un cercle de Ségou, où le taux de participation est de 33%, où celui qui gagne la majorité n'aura que 55 000 voix, je crois que pour tout un cercle, il y a là matière à disserter. Mais c'est quand même des élus.
Amadou Garan Kouyaté, vous qui avez ce regard de l'universitaire sur notre plateau, Amadou Garan Kouyaté, ça va poser des problèmes de légitimité, le fait qu'il y a un taux de participation faible? Rapidement.
Bon, oui, c'est vrai, effectivement, ce problème de légitimité va effectivement se poser, parce qu'on a à ce niveau de taux de participation.
Malheureusement, on me signale que le temps est fini. Merci à tous. Sachez que vous pouvez réécouter ce débat et tous les autres éléments de nos programmes. Très rapidement.
Moi, je dis que la légitimité, il faut relativiser, parce que de toute façon, le plus important, c'est que nous avons eu des élections transparentes, crédibles, bien organisées. On sort de crise, ça c'est très important. Et deuxièmement, ce n'est pas évident que les législatures passées ont eu un taux de participation meilleur à celui qui s'est passé.
Okay.
Donc je me dis, la légitimité, c'est au regard de l'organisation des élections. Elle est bonne.
Merci, c'est déjà la fin.
Elle est relativement acceptable, cette
légitimité. Oui, mais merci à Mensissé, merci à Moussaf Maïga depuis Ségou et à Amadou Garan Kouyaté. Merci, on espère vous retrouver très prochainement. Et là, je cède le plateau au journal pour les petits flashs.
Merci, Modibo, et à vos invités également. À vous, Sira Bachili, pour la synthèse des informations de cette édition spéciale.
Bien évidemment, et puis on rappelle que le Mali a voté aujourd'hui entre peur et désenchantement. Pas d'incident majeur à signaler toutefois. Le taux d'abstention a encore progressé. L'émission d'observation s'inquiète de ce phénomène. Louis Michel de l'Union européenne exprime sa déception. Voter est une question de politesse à l'égard du destin de son pays, dit-il. Et puis Moussa Mara, le ministre de l'Urbanisme et de la Ville, lui parle du chemin qui reste encore à parcourir. Pour lui, il faut rester quand même positif car le Mali revient de loin. Je vous le disais tantôt, les Maliens ont donc voté aujourd'hui pour désigner les 128 députés qui restent à élire après le premier tour. 19 sièges ont déjà été pourvus le 24 novembre dernier. Ce second tour doit mettre fin au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Avec un peu plus de 38% de participation, le premier tour a été marqué par un important taux d'abstention. Le deuxième tour confirme la tendance enregistrée il y a 3 semaines. On peut le dire, les électeurs maliens se sont peu déplacés aujourd'hui sous les mannequins à
On s'attendait à un nouveau recul de la participation au premier tour. Les observateurs ont confirmé cette tendance. Très peu d'électeurs se sont déplacés à Bamako. Dans certains bureaux de vote, on a même enregistré une moyenne d'un électeur tous les quarts d'heure, le rythme matin à certains endroits, un par demi-heure. Même constat à Kaye, où à 11h30, on avait enregistré seulement 30 votants dans l'un des principaux bureaux de vote de la ville. À Koulikoro, la situation est comparable. L'affluence est très faible, avec 0 votant dans plusieurs bureaux de vote. En revanche, à Banamba, les habitants se sont, semble-t-il, mobilisés en profitant de votes collectifs organisés par des candidats. 24 sont partis de Bamako pour aller faire voter là-bas. À Sikasso, la participation semble être légèrement supérieure à celle du premier tour. À Tombouctou, le taux de participation a atteint 25% à la mi-journée, ce qui est moins qu'au premier tour. À Gao, le taux de participation n'a pas atteint les 20% à 12 heures.
La participation était l'un des deux principaux défis de cette élection. L'autre concernait la sécurité et les menaces terroristes. Le dispositif mis en place a été renforcé, surtout après les derniers événements de Kidal. Et comme pour le premier tour, aucun incident majeur n'a été signalé. Pour autant, il ne faut pas négliger le désengagement des électeurs à Kiatouré.
L'attentat commis à Kidal a fait planer un climat de peur dans certaines régions sur le déroulement des opérations de vote. À Gao ou à Tombouctou, des personnes ont expliqué qu'elles ne souhaitaient pas aller voter à cause des menaces terroristes. Pour autant, dans ces deux villes, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. L'autre enseignement de ce deuxième tour, c'est la démotivation des électeurs. Cette démotivation est réelle dans ce second tour. La campagne qui avait eu du mal à démarrer au premier tour est restée à tourne les deux derniers semaines, mène à renforçant le sentiment d'un divorce entre l'opinion publique et la classe politique. Le comportement des responsables politiques et globalement leur mauvaise image explique le désintérêt des électeurs. Tous les observateurs se sont inquiétés de ce phénomène qui pose plus largement la question de la légitimité de la future assemblée.
Voilà Salima Tandao pour l'essentiel de l'actualité que nous avions rassemblée pour nos chers auditeurs pour ces législatives. Nous rappelons que nous revenons demain sur toutes ces étapes et sur les tendances.
Merci beaucoup, Sylla Bachili. Sidio Tamani, c'est la radio de toutes les voix du Mali.
Et c'est pourquoi nous saluons nos radios partenaires. Elles sont au nombre de 24. Adar Kouima de Gao, 101.7 MHz. Alfarouko de Tombouctou, 98.00 MHz. Benkan de Bamako, 97.1 MHz.
Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous, chers auditeurs. Un grand merci à tous nos correspondants. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition spéciale qui sera cette fois-ci consacrée au dépouillement du scrutin de ce dimanche 15 décembre 2013. Merci.